l'art de l'icône pour voir l'invisible.
Notre-Dame de Romigy accueille une exposition exceptionnelle jusqu'au dimanche fin mai. On doit icône byzantine, image de l'invisible, au talent de l'iconographe Aimé Brassens et à sa rencontre avec Michel Garbiez qui préside l'Association des Amis de Notre-Dame de Romigy, une exposition en harmonie avec l'église manouskine. Avec plus de 200 œuvres, dont certaines ont plusieurs siècles, c'est un voyage dans une discipline artistique surprenante où les connaissances et la pratique d'Aimé Brassens font merveille. Elle écrit ses tableaux, dont le sens religieux est fort et mystique. Régi par des codes précis depuis 2 millénaires, l'art de l'icône représente des scènes du Nouveau Testament et magnifie l'Annonciation, la Vierge et l'Enfant, l'entrée à Jérusalem ou bien encore le Saint-Sépulcre par exemple. L'utilisation de couleurs significatives, de représentations sereines et en douceur ou de perspectives inversées font de l'icône un objet d'art et de culte très spécial. Gravée et colorée, chaque œuvre invite à la méditation, que l'on soit croyant ou pas. Le talent de l'iconographe est de solliciter en chaque visiteur des émotions intimes et profondes qui dépassent le seul aspect artistique, pourtant déjà très fort. Je vous propose d'écouter Aimé Brassens qui donne quelques clés pour mieux comprendre et voyager au cœur des icônes byzantines. Aimé Brassens, comment vous est venue cette passion de l'icône ?
Alors moi je ne poserai pas la question comme ça parce que cette passion ne m'est pas venue. Je pense que j'ai été saisie dans la petite enfance par quelque chose d'autre qui m'a dépassée. J'ai été élevée chez les religieuses de Saint-Maur. Pour être bien élevée. À l'époque, c'était l'éducation qui primait avant toute chose. Et là, j'ai été happée par la beauté, happée par le spirituel. Et en moi, il y avait déjà une âme d'artiste, bien sûr, comme elle se trouve dans ma famille. Ma grand-mère jouait divinement du piano, etc. Et cette âme d'artiste s'est révélée face à la contemplation d'une icône. Et donc, à peu près à 14 ans, j'ai écrit ma première icône avec une personne qui m'a enseigné, qui était merveilleusement douée. Et il s'est avéré que cette première icône a été très, très, très belle et a orienté toute ma vie. Et depuis l'âge de 14 ans, à peu près, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais cessé d'écrire des icônes, d'enseigner, bien sûr. J'ai été formée de plus en plus par des maîtres, dont le Père Saint-Delair. Et ensuite, on m'a demandé de faire des collections de façon à les exposer en France et à l'étranger, de façon à faire un peu connaître ce qu'était une icône dans le monde occidental qui quand même était un peu éloigné de cet art. Et j'ai vu au fur et à mesure des années, des expositions, que l'icône était tellement vivante, tellement forte dans son essence même, qu'il y avait des résonances sur les spectateurs et que plus on leur expliquait la tradition, plus on leur expliquait la technique et plus ils rentraient dans cet art et plus ils en recevaient en fait des grâces et des guérisons spontanées. Donc ça, c'est assez troublant. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'icône était vivante et quelle que soit la démarche spirituelle des gens qui venaient contempler, cette beauté les élevait vers une dimension mystique qu'ils ignoraient porter en eux-mêmes. C'est clair pour moi.
Vous l'avez dit, vous écrivez des icônes et c'est donc une manière de s'exprimer particulière qui tient à la fois de la peinture, qui tient de la mystique, qui tient de beaucoup de choses et qui touche effectivement le public, c'est ce que vous dites. Vous avez exposé ici même à Manosque, vous avez reçu aussi, je suppose, pas mal de réactions de la part du public.
Écoutez, si on ne parle que de Manosque, regardez le livre d'or où il y a des messages qui sont d'une grande beauté. Les gens ont été touchés. C'est un peu le hasard qui fait que j'ai exposé à Manosque parce qu'en principe, je fais dans de très grandes villes ou des grands monastères.
C'est une chance pour nous.
Vous êtes gentil. En fait, j'ai habité Manosque pendant 40 ans. J'ai quitté Manosque. Et je pensais vraiment ne pas y revenir. Et à la demande de l'association d'ici, j'ai accepté, pensant que bon, ce serait une petite exposition. En fait, c'est une belle exposition, elle fait partie des belles expositions. Et j'ai été étonnée de voir la réaction du public qui a posé des questions pertinentes et qui a été touchée. Donc ça ne dépend pas de la grandeur ou de la culture de la ville, ça dépend vraiment c'est une histoire d'âme, tout simplement. Lorsque quelqu'un est sensible à la beauté, quelle que soit son origine, il est touché par l'iconographie. Et quelque chose de mystique se joue tout le temps.
Parmi les aspects intéressants de votre exposition, il y a ce voyage aussi bien dans le temps que dans l'espace, avec des icônes qui viennent d'un petit peu partout, évidemment plutôt de terres orthodoxes, mais aussi cette question qui est lancinante sur l'histoire du Christ et des saints.
Oui, bien sûr, puisque quand même l'origine de l'iconographie, c'est le début de l'ère chrétienne, bien sûr, la tradition nous dira que la première icône a été écrite par Saint Luc en présence de la Vierge, évidemment c'est une tradition. Mais il est certain qu'on va représenter tout le temps des visages qui vont avoir des rapports entre eux. On reconnaîtra toujours le visage de la Vierge, le visage des Christ, le visage des saints. Il y a une espèce de code, on appellera ça les plaquettes de Novgorod. Donc un art avec un canon très sévère. Et c'est important de rester dans cette rigueur. Parce que lorsqu'on écrit une icône, on va écrire l'intériorité du divin et pas du tout l'extériorité. Donc tout ce qui est de l'ordre de la représentation humaine va être un peu, un peu éloigné. On va représenter toujours une attitude intérieure, digne, maîtrisée, priante. Et c'est ce qui va faire la différence entre l'iconographie et la représentation religieuse, chrétienne évidemment, qu'on trouvera chez les Flamands, chez les Italiens, à partir de Saint-François du XIIIe siècle, où il y a cette séparation entre les deux arts qui devient très forte. Mais aujourd'hui, on revient vers l'icône, alors peut-être à cause du rapprochement des églises, peut-être parce qu'on voyage beaucoup plus et que les gens ont vu des icônes un peu dans tous les pays chrétiens. En tout cas, c'est très très clair qu'en ce moment, il se passe quelque chose au niveau de l'iconographie.
Il y a une couleur qui revient régulièrement, il y a des couleurs bien sûr magnifiques et qui dépendent des pays dans lesquels sont écrites ces icônes. C'est la couleur dorée qui est presque un fil rouge pour les icônes.
Oui, chaque couleur a un sens théologique très fort. Le rouge, par exemple, représentera toujours la royauté, donc le Christ. Le bleu représentera l'humanité. Le Christ sera toujours vêtu de rouge et de bleu. Il aura un manteau rouge et une robe, une chasuble bleue. Toujours cette double nature divin-humain. Le doré représentera la divinité. Donc une icône sera toujours sur fond d'or. Parce qu'en fait, l'icône, qu'est-ce que c'est ? C'est un art qui est très codifié et le premier geste va être de créer une fenêtre dans un bois, un fruitier portant graines. Et lorsqu'on aura creusé cette fenêtre, on saura que l'icône est une fenêtre qui nous permet d'accéder au divin. Donc, tout veut dire quelque chose. Et lorsque cette fenêtre sera créée, on va poser cette feuille d'or qui va nous dire là où nous tentons d'aller, je vais dire. Parce que c'est pas de l'ordre de la volonté, c'est plutôt de l'ordre de la mémoire de notre corps qui porte en soi, qui que nous soyons, une parcelle de divin que nous ne pouvons pas gommer. Et c'est pour ça qu'on va graver l'icône, pour dire que la gravure est indélébile, on écrit une icône, et l'œuvre du divin dans l'humain, quel qu'il soit et quoi qu'il fasse, restera indélébile. Donc ça, c'est le message de l'icône, et c'est magnifique.